Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions, et vous écoutez Le Déclic. Dans la vie, on ne peut jamais vraiment connaître les épreuves que les gens de notre entourage ont traversées. Juin 2017, je débarque dans une nouvelle ville et rencontre tout un tas de personnes, dont Stéphanie. Stéphanie, pour moi, ça a directement été la fille hyper sociable, hyper sympa et hyper stylée, qui fait ses propres fringues, se déplace en vélo orné de fleurs et qui se marre tout le temps. Et puis un soir, elle m'a raconté son histoire. Dans la vie, on peut jamais vraiment connaître les épreuves que les gens de notre entourage ont traversées, mais encore moins comment ils les ont traversées. Un matin, Stéphanie s'est réveillée avec une douleur foudroyante dans le dos et des membres paralysés. Elle a accepté de nous raconter cette expérience, sa façon de la surmonter et la découverte d'une véritable passion. Son histoire, c'est une histoire de force mentale, de puissance même, carrément. Une histoire d'abnégation aussi, et de positivité.
Salut Steph !
Salut !
Alors Steph, dis-moi, avant toute chose, on va parler de avant le déclic, donc ce qui s'est passé avant dans ta vie, en
oui.
gros. Mais pas, enfin, tu vas pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Et donc toi, t'as grandi où ?
J'ai grandi dans les Ardennes, dans la vallée de la Meuse, donc c'est la campagne version un petit peu de montagne quand même.
T'as fait quoi comme études ?
J'ai fait des études en communication.
Ah ouais ?
Communication des entreprises, exactement.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est normalement pour bosser un peu en com interne, en com externe dans les entreprises, avec le marketing et tout ça. Après, j'ai pas du tout fait ça, je suis partie plus dans l'associatif et le théâtre. Mais voilà.
Parce que toi, c'était quoi tes passe-temps à l'époque quand t'étais plus jeune ?
À partir du lycée, j'ai fait du théâtre de rue. J'ai fait un bac ES, mais je voulais faire. J'aurais bien fait L et fait option théâtre, mais bon, papa et maman, c'était pas trop dans leurs envies. Mais du coup, j'ai fait pas mal de théâtre de rue et on a fait pas mal de balades, de festoches, tout ça, rencontrer des circassiens, tout ça. Donc j'aimais quand même pas mal le côté artistique de la chose. Donc quand j'ai fait de la com, je voulais aussi partir dans la communication culturelle, quoi. C'était plus ma passion à ce moment-là.
Ok, et l'objectif, c'était de faire quoi après ?
Bah, dans mes rêves absolus, c'était de bosser en com dans un théâtre, par exemple. Mais okay. Un théâtre, pas théâtre de rue, forcément, parce que c'est plus compliqué là-dedans. Mais c'était ouais, un théâtre quoi, ici à Lille ou aux alentours, une structure culturelle sympa. Et même, voilà, salle de concert, n'importe. Enfin, sauf qu'on est très nombreux, donc c'est quand même compliqué.
Oui, il y a peu de place pour...
Exactement.
Ok, je vois. Et toi, t'étais déjà intéressée par la couture à l'époque ou pas du tout ?
Alors, avec le théâtre de rue, on faisait un peu de couture parce qu'on faisait, on bricolait des costumes. Enfin, on faisait des beaux costumes, mais c'est des costumes que t'as besoin d'avoir qui soient beaux de loin puisque c'est dans la rue. Donc, j'ai fait de la couture, mais à la machine et à la main, mais de façon très finition zéro, on va dire, parce que de loin, c'était très beau. Voilà. Donc, j'avais déjà un petit peu ce truc-là, et c'était autant de la couture à la main que aussi, limite, on faisait de l'art plastique, de bricoler et tout ça, de faire avec ses mains et de faire des belles choses. C'était un petit peu là, mais pas plus que ça à ce moment-là, quoi.
Ouais, c'était pas...
Enfin, en tout cas, je me disais pas encore, je vais vraiment faire de la couture après.
Et alors, un jour, il s'est passé un truc.
Eh ben, en résumé vite fait, c'est quand même que j'ai bossé dans la com. Après, j'ai arrêté de bosser dans la com parce que j'étais en théâtre, enfin dans un théâtre, mais on fait trois boulots en un pour 600 euros par mois et à un moment, il faut arrêter. Et j'ai bossé à la droguerie dans le Vieux-Lille. Donc, c'est une mercerie où on vend des perles, des boutons, des rubans. Donc là, ma grand-mère tenait un fil d'art, donc j'avais un peu l'impression de quand même avoir un petit truc qui rappelle mamie. Du coup, c'était alimentaire au départ, mais finalement, je me suis bien plus là-bas parce que c'est quand même pas... C'est pas bosser dans une grande chaîne, c'est quand même mignon comme... boulot de vendeuse, on va dire. Et du coup, je m'y suis bien plu. Et entre autres, bah, pour parler de la couture, je savais tout faire parce que je faisais du tricot avec ma grand-mère. Les bijoux, ça s'apprend facilement. je faisais pas de couture, mais on en vendait. Et là, j'ai commencé à vouloir apprendre à coudre via la droguerie. Mm-hmm. Je voulais profiter d'être là-bas pour qu'ils me payent un peu une formation, ou en tout cas que, de me former là-dedans, pour au moins mieux conseiller les clients. Au départ, c'était ça. Et j'avoue, je m'étais dit, bah, vu que c'est quand même agréable, si je peux avoir des cours pour apprendre une personnellement, je trouvais ça trop bien. Et donc, j'ai bossé genre 2 ans à la droguerie à peu près. Et j'ai commencé genre une fois, une séance de couture avec une prof, genre 2 heures. Et c'était en décembre. Et ben, décembre, entre...
Pardon, on l'entend vraiment...
On l'entend beaucoup.
Et tu vas arrêter ? Alors, pour vous, amis auditeurs et amis auditrices, mon chat est devenu fou, en fait.
Et ouais, du coup, entre à ce moment-là, donc le fameux souci, accident de vie, je sais pas, moi j'appelle ça comme ça, comme un accident de la vie.
T'en parles comme ça, un accident
ouais.
de la vie
bah, okay. Quand les gens me disent accident, t'as eu quoi, accident de voiture? Non, accident de la vie, dans le sens, c'est arrivé comme ça un jour, un matin, et bah, il n'y avait pas d'explication, il n'y avait rien. Et donc, un matin, entre Noël et Nouvel An, je me réveille chez moi, un jour de congé, heureusement, et ben d'un seul coup j'ai hyper mal au dos et du coup je me sens pas bien, réflexe totalement débile parce que je me suis allongée par terre parce que j'ai mal au dos, je vais me mettre toute droite dans mon lit, c'est pas droit, donc je m'affale par terre en me disant ça va aller mieux, j'en sais rien. Et là je veux faire le truc super, je prends mon téléphone pour taper mal de dos sur Google, hein, histoire de vérifier Doctissimo. et en voulant faire ça, je me rends compte que j'arrive pas à prendre mon téléphone.
Oh,
qu'en fait, j'arrivais plus à utiliser mes mains. Mais j'ai pas tant paniqué que ça. Enfin,
c'est vrai ?
Non, ouais. Alors, je suis hyper naïve sur la santé, sur plein de trucs. En plus, j'y connais pas grand-chose non plus. Je me suis dit, ok, j'ai un nerf bloqué dans le dos.
D'accord.
Je vais aller chez la kiné, elle va appuyer dessus, et magie, tout va revenir comme avant. Vraiment,
t'es
à ce moment-là.
T'es nature
optimiste un petit peu. Et naïf.
On préfère dire optimiste,
mais c'est
plus positif.
Voilà. Mais naïf, moi, je trouve que ça peut être positif comme négatif. Ça a les deux penchants.
Ouais,
et du coup, je me suis pas tant inquiétée que ça. Bon, je me suis quand même inquiétée parce que du coup, j'avais mal et que je pouvais rien. Bah, vu que mes mains, j'arrivais pas trop à les utiliser. J'avais mes poignets, du coup, mais mes mains en elles-mêmes, non. Bon, heureusement, à ce moment-là, merci Siri et les assistants vocaux. J'ai pu... appeler mon mec de l'époque et appeler au secours, demi-tour, reviens du travail, il y a un petit souci et je peux pas le faire, je peux rien faire toute seule. Enfin, je pouvais pas me débrouiller pour ne serait-ce qu'aller chez la kiné.
Ouais.
Moi qui croyais vraiment que la séance de kiné allait tout résorber.
Bien sûr.
Voilà. Et voilà, j'ai appelé ma kiné, elle m'a dit, elle m'a pris en urgence. Elle m'a dit, en attendant, prenez un bain. Alors, très mauvaise idée finalement, pour me détendre. Sauf que, je suis allée me prendre un bain, mais après, j'arrivais plus à me rhabiller quand je suis ressortie.
Bah, tu m'étonnes.
Mais on n'y pense pas, hein, seulement. Et voilà. Et du coup, je suis allée chez ma kiné, qui m'a examinée, elle, après coup, j'ai su qu'elle pensait que j'avais la sclérose en plaques.
Ah ouais.
Mon mec aussi a pensé ça, mais personne ne me l'a dit. Enfin, en même temps, fallait peut-être mieux, hein, mais. Et du coup, elle m'a dit, allez chez votre médecin. Je suis allée chez ma médecin, qui heureusement est à côté des urgences. Et elle, pareil, elle m'a assez rapidement dit, urgence. Et cette journée a été assez longue, parce que finalement, j'ai fait ça à 9h du mat. Je suis allée chez la kiné, je suis allée chez le médecin. Le temps que j'arrive aux urgences avec tout ça, parce que médecin, je lui ai pas dit au secours, passez devant tout le monde. Il y avait des enfants qui pleuraient de maladie. Moi, j'avais hyper mal, mais je me disais pas, poussez-vous, je passe devant. Et j'ai fait ça tout le long de la journée, en fait. Je voyais toujours des gens pires que moi, alors je me disais, c'est pas grave. Et voilà, et ça a fait que je suis allée aux urgences après dans la même journée, et pas avant minuit le soir, j'ai eu un IRM qui était flou parce que j'avais au fil de la journée, tout s'est un peu aggravé. Au début, je marchais, après, je pouvais plus marcher.
Ouais.
Au début, j'arrivais encore à aller aux toilettes, après, j'arrivais plus à vraiment aller aux toilettes, voilà, puis j'arrivais plus à me rhabiller. Enfin voilà, c'était plein de trucs bizarres en même temps, et puis j'avais mal, mais au début, c'est pareil, on nous dit à l'hôpital en arrivant, vous avez mal entre 1 et 10 de combien? Moi, je disais 3 sur 10. Parce que j'en sais rien, qu'en fait, quand on a très mal, il faut dire 7 ou 8,
sinon ils prennent pas au sérieux.
Sinon, ils prennent pas. Ou alors, en tout cas, ils nous mettent un peu de côté aux urgences, parce qu'il y a des gens qui ont dit 8 sur 10.
Ouais.
Sauf que moi, toujours dans le côté... Et puis, je suis pas du genre à me plaindre, donc du coup, je pense que j'ai dit 3, parce que je voulais pas... Voilà, mais pourtant, quand même, au secrétariat, je lui ai demandé de prendre mon portefeuille, parce que je... Enfin, tant que mon mec de l'époque allait se garer, j'étais toute seule, et j'arrivais pas à sortir ma carte vitale, ou... Mais même rien que ça, je me suis... j'ai rien dit.
Déjà là, ça vaut un 12 sur 10 pour
oui,
moi.
Mais maintenant, je le sais. Donc si jamais ça... Enfin, pas ça, et je le souhaite pas que ça me arrive, mais maintenant, je saurais dire 10 sur 10. Laissez-moi passer. Et le temps que je me plaigne, que je pleure vraiment parce que j'en pouvais plus, il était 18h ou quoi. Et donc, j'ai eu un IRM à minuit. Sauf que j'avais tellement mal, après, j'ai eu mal dans une jambe, que mon IRM normalement doit pas bouger, doit être, je bougeais tout le temps, donc mon truc a été hyper flou. Mais ils ont flippé tout de suite, ils ont vu qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma moelle épinière, et ils ont juste dit à partir de là, vous restez allongé, vous bougez plus. Et le lendemain, j'en ai refait un officiel le lendemain matin hyper tôt, et ils ont vu que j'avais un caillot de sang dans la moelle épinière.
Ok.
Et que du coup, alors encore aujourd'hui, on sait pas pourquoi il est arrivé là et de où ni rien.
Parce qu'il y a des antécédents dans ta famille ou...
Non, rien du tout. Et puis c'est un truc, ça s'appelle une ischémie médulaire, ce truc-là. Et apparemment, c'est rarissime. Même des spécialistes dans la médecine que j'ai pu voir après, enfin, pas forcément des spécialistes, mais je veux dire, je sais pas, je vais voir ma dermato ou je dis n'importe quoi, ou même ma médecin ou certaines personnes que j'allais voir dans le milieu médical, qui, limite, je devais raconter qu'est-ce que c'était, tellement c'est ouais. Inconnu au bataillon et que c'est un truc bizarre. Et en fait, c'est comme... ce qu'ils ont dit à mes parents qui les a fait flipper sur le coup, mais comme un AVC mais dans le dos en fait, parce que okay. Ça fait des, et du coup le caillot il abîme dans la moelle épinière, il est derrière, il gratte un peu à gauche, il gratte un peu à droite et il abîme des endroits. C'est pour ça que j'ai eu les mains d'abîmer, c'est pour ça que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui mal dans une jambe, mais que genre c'est un peu à gauche, un peu à droite, un peu ma vessie, un peu des trucs, bon c'est pas comme un AVC où c'est tout à gauche ou tout à droite, que ça va de la tête jusqu'au en bas. Moi, c'est en diagonale. Enfin, c'est un peu chelou de ce fait-là. Et voilà. Et du coup, après, j'étais partie pour l'hôpital pour un moment. Mais du coup, le truc cool, si on peut dire, c'est que comme il n'y a pas d'explication au fait qu'il y a eu ce caillot, normalement, c'est juste un malheureux petit caillot qui s'est baladé au mauvais endroit au mauvais moment. Parce que pareil, j'avais 27 ans quand ça m'est arrivé et tout le monde m'était halluciné que... Enfin, j'étais au service neurologie avec des personnes âgées et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Enfin, c'était un peu... Ouais. Et a priori, si j'ai pas d'explication, parce qu'évidemment, je suis passée par tous les examens possibles et imaginables après, et il n'y a aucune explication, et a priori, ça veut dire que ça devrait pas me réarriver. Justement parce que j'ai pas d'antécédents ou je suis pas, genre, des problèmes cardiaques ou je sais pas quoi. Donc, a priori, c'est juste un coup de pas de bol sur je sais pas combien. Mais donc, dans un sens, ça devrait plus me réarriver et c'est déjà ça. Quoi. Enfin,
oui, oui, ce serait pas mal.
C'est déjà pas mal, c'est déjà suffisant.
Et t'es restée combien de temps en tout à l'hôpital ?
Alors, j'aurais pu dire précisément, mais je sais que je me suis retrouvée... j'ai passé Nouvel An à l'hôpital, c'était sympa. Le menu de Nouvel An, il y a du foie gras, c'est sympa.
Ah, dis donc, alors
mais j'ai fait 2 semaines à l'hôpital officiel, vraiment, à attendre, à faire plein d'examens. Et au total, j'ai fait 2-3 mois, je crois, mais après, à l'hôpital... Enfin, je sais plus si... L'hôpital de rééducation, quoi.
D'accord, en fait. Ok.
Et du coup, je dormais là-bas et c'était des séances dès le matin de, je sais plus, ergothérapeute, je sais plus si c'est ça, je crois, et kiné et sport. Parce que du coup, pendant 2 semaines, j'avais pas le droit de me lever, donc j'étais alitée pendant 2 semaines, donc après, tu sais plus marcher. Ouais. Et voilà, puis avec ce qui m'est arrivé, c'est que dans les mêmes séquelles qu'un AVC, c'est que tu t'es essoufflée en 2 secondes et demie, t'es devenue tout faible de partout, comme quand on a juste, je sais pas moi... un genou dans le plâtre et que du coup on bouge pas pendant un mois. Et puis après, à partir de là, ouais, quand j'étais en 2 mois en rééducation, c'était pour essayer de récupérer mes mains, parce que je savais plus tenir un gobelet, je savais plus me laver, je savais plus rien faire, quoi.
C'était quoi ton état d'esprit à ce moment là en fait?
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas flippé, j'ai pas, alors j'ai bien compris que sur le coup je pensais quand même rentrer chez moi le soir, même encore une fois, même quand j'étais là-bas et qu'on m'a dit ça craint, j'étais encore à me dire oh, on va manger ça ce soir, hein. Et après, j'ai commencé à comprendre que j'y restais là-bas. J'ai surtout flippé à me dire si je sais plus utiliser mes mains. J'étais quand même bien à la droguerie à travailler en mercerie. Et en faisant des bijoux, faire du tricot, tout ça, c'est très manuel. Et je me disais, OK, si j'ai plus de mains, je fais comment ? Mes collègues, elles m'avaient ramené de quoi tricoter avec les bras et tout, mais bon.
On peut tricoter avec les bras ?
Ouais. Y a des gros tricots énormes et les bras servent d'aiguille. Donc t'as pas besoin de... Bon, tu fais pas tous les tricots du monde avec ça, hein.
Oui, tu fais pas des trucs minutieux, j'imagine.
Voilà, mais du coup, c'était quand même... Mais j'ai surtout flippé là-dessus. Et puis en fait, j'ai flippé plus pour les autres encore, à me dire comment elles vont faire en boutique sans moi. Enfin, sans moi. Je dis pas que, ouh, il y a que moi. Mais comment elles vont faire avec une personne en moins, hein, en plein Noël, Nouvel An, les fêtes, les vacances, au secours. Et j'étais plus à paniquer sur ce genre de détails techniques que moi-même à pas tenir un gobelet.
Mais c'est marrant parce que là, de tout ce que tu racontes de cette journée, à tous les moments, tu penses aux autres avant de penser à toi, quoi.
Ouais, ça. Mais je pense que ça m'a au final aidée parce que j'ai tellement plus paniqué pour les autres que je me suis pas trop paniquée sur ce qui se passait sur moi-même.
Okay.
Et ça m'a sûrement aidée à aller plus vite en rééducation. Alors j'ai eu des moments de tristesse quand même, hein. Enfin plus en arrivant en rééducation. Avant ça, j'ai pas eu le temps. On passe des examens, on est quand même fatigué, on comprend pas trop ce qui se passe. J'avais hyper mal dans ma jambe et j'en pouvais plus et je pensais plus à ça qu'à mes mains, presque. Mm-hmm. Parce que moi, on me disait, ça partira dans 2 semaines. Et ça donne, dans une de mes jambes, une sensation comme s'il faudrait s'étirer tout le temps. Se tenir comme ça, là, comme à la gym, et tendre la jambe. Du coup, je me disais, mais quand est-ce que ça s'arrête, cette tension Et eux, sur le coup, les médecins, ils disent pas forcément tout de suite, mais valait mieux. Ils disaient, oh, bah, avec le traitement, dans 2 semaines, ça va mieux. Bah, en réalité, c'est encore là aujourd'hui, mais maintenant, si on me l'avait dit tout de suite que ce sera encore là à vie, je pense que là, j'aurais explosé. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de voir ce qui se passait. Et c'est seulement en rééducation que j'ai commencé à flipper. Ou à me rendre compte et à pleurer, ou à me rendre compte sur moi-même, parce que je me disais, est-ce que ça va marcher? À quel point? Et à quel point je vais avoir des séquelles? Parce que personne sait le dire, parce que les nerfs, c'est encore quelque chose de très... Même la médecine, ils savent pas, c'est encore assez flou comme médecine. Est-ce que ça va se réparer, pas se réparer? On est jeune, quand on est jeune, ils ont plus d'espoir sur la... Comme quelqu'un qui a un AVC, qui a des séquelles, bah, il peut s'en remettre, mais plus ou moins bien. Une personne âgée, moins bien qu'une personne plus jeune.
Ouais, bien sûr.
Et là, c'est pareil. Mais c'est qu'en arrivant en réduc, bah, genre les premiers exercices, c'est on prend une baballe hyper légère et on le tient dans sa main, la balle vers le bas, et on est censé juste la soulever et la tenir. Et moi, je faisais ça et elle glissait de mes mains, tellement j'avais plus de muscles. Et alors, les premiers exercices comme ça, les premières fois, et du coup, de faire ça, je me rendais d'autant plus compte que plus rien ne marchait, quoi. Donc là, ça fait
peur.
Surtout que sur le coup, évidemment, ça évolue pas sur la seconde du moment du premier exercice. Ou alors, il y a un sac de coquillettes crues et il faut les prendre dans ses mains pour les remettre dans un seau. Et ben pareil, je prenais et tout glissait de mes mains. Des pattes, quoi. Et du coup, t'es là, ok. Donc, dans ces moments-là, j'ai commencé à pleurer, de me dire combien de temps ça va mettre. Du coup, je demande à mon kiné, mais alors, heureusement, lui, ça a été mon psy pendant toute la réduc. Je disais, mais comment on va faire? Il me disait, ben, alors après, il était vrai, enfin, il était, comment on peut dire, honnête avec moi. Il m'a pas dit, ben, il a clairement dit, je sais pas à quel point vous allez récupérer, parce qu'effectivement, il y a des gens qui récupèrent pas tout, et ça aurait pu s'avérer que je récupère rien. Mais il a dit, mais là, il est trop tôt pour voir, mais on pourra pas se dire, ok, dans 2 semaines, on fait un point et on sait. C'était flou, même le temps de récupération, il peut être beaucoup plus long. Moi, a priori, j'ai quand même été hyper rapide, genre, ben, en 2-3 mois, j'arrivais déjà à refaire pas mal de choses. Après, j'ai quand même eu de la rééduc encore, mais hors hôpital, pendant 2-3 ans quand même. Deux bonnes années. J'allais 2 fois par semaine faire bouger mes petits doigts avec ma kiné pour les mini-muscles des mains. Mais quand je suis sortie après 2 mois de rééduc, ça allait déjà beaucoup mieux, quoi. Enfin, je pouvais me laver,
j'arrivais à tenir fourchette, des coquillettes.
Les coquillettes allaient dans le seau et, et la baballe, je la tenais, quoi. Donc, mais au début, ma main gauche allait moins bien que ma droite. Et comme je suis gauchère, je me disais, ok, bah, si la droite remarche, mieux que l'autre. Je commençais à essayer d'écrire dans ma chambre d'hôpital de la main droite en mode bah, si celle l'autre elle marche plus, bah faut se faire tout de suite à préparer l'autre main à écrire. J'étais en robot en mode ok, on y va à fond et en mode bon élève.
Quoi.
En mode bon élève, on me donnait 10 exercices à faire dans ma chambre, j'en faisais 9, du coup je pleurais parce que j'arrivais pas à faire les 10, j'avais pas eu le temps. Et mon kiné qui me disait non, mais on en donne 10 parce que plein de patients n'en font qu'un sur les 10. Et moi, j'en ai fait 9, j'ai pas réussi à faire les 10. Il fait, mais vous êtes la meilleure élève, entre guillemets, du truc, calmez-vous.
Et t'étais comme ça dans ta scolarité ou pas du tout
Je pense un peu parce que j'étais un peu bon élève. Si, il y a un moment, je l'étais quand même au collège et après en mode compète, à essayer d'avoir les bonnes notes et tout. Donc je pense qu'il y a ce côté-là quand même de. Ah, il y a des exercices, il faut les faire. Ok, pourtant, il n'y a pas de notes à la fin. Mais dans un sens, tant mieux.
La note, c'est de récupérer la mobilité de.
Oui, voilà. Donc dans un sens, il n'y avait pas de notes et de bac à passer ou quoi que ce soit, mais mon bac des mains, il était pratique.
C'est ça.
Donc, et puis vraiment, j'ai pas tant paniqué. J'ai eu des moments de pleurs, beaucoup, mais j'étais quand même dans un truc en mode faut y aller. Tout le monde m'a tellement dit faut se donner à fond que je restais sur ça. Et j'étais pas déjà à me dire plus tard, trop à me dire oh mon Dieu, c'est fini. Pas tant que ça, en fait. J'étais plus. De voir ce qui se passait, ça me rendait triste, mais je me disais pas non plus, je pensais pas déjà oh mon Dieu, ça va être comme ça toute ma vie.
D'accord.
Heureusement, parce que je pense que sinon, c'est aussi ça, c'est que tu peux vite broyer du noir et ça peut être vite un sacré
vicieux. Et c'était ça ta force, en fait, de finalement voir le jour, enfin, vivre au jour le jour d'une certaine façon, quoi.
Je pense, être dans la bulle là-bas, ça m'a fait pas trop réfléchir à plus loin. Je pense que oui, ça m'a pas... Ça et les proches, enfin, tous les gens qui étaient là. Tout le monde, mon mec de l'époque, ma coloc qui venait quasiment tous les jours... toute la famille, les amis, tout le monde qui venait tout le temps, plein de monde est venu ou m'appelait, etc. Et je pense que là aussi, mine de rien, même si c'est pas une prison, mais quand on est à dormir là-bas tous les soirs dans sa petite chambre, ça fait un effet prison, même si c'est pas le but du lieu de la rééducation, mais c'est quand même un peu frustrant. Un peu dur psychologiquement, mais plus il y avait de monde à chaque fois, tout le monde m'amenait. Du coup, à la fin, ma chambre, elle était décorée. C'était plus une chambre d'hôpital. Enfin, et voilà, où on m'amenait des trucs, des masques de beauté, des trucs pour me détendre, machin. Et c'est tout, c'était plein de petits trucs tout. Ou même, par exemple, je sais pas, il y avait la droguerie de Toulouse. Ils m'ont envoyé un colis avec des trucs de là-bas. Enfin, tout, vraiment, même des gens de nulle part auxquels on pense. Enfin, on pense pas, c'est pas ça, mais. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de monde. Et je pense qu'il y a aussi vraiment ça qui m'a aidée, dans la tête, totalement.
Ouais, à garder le mental, tout ça.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es mise à penser à la couture en mode professionnellement, tu vois ?
Au fur et à mesure, oui. En fait, quand j'ai eu fini à l'hôpital en rééducation, j'étais à la maison. Assez rapidement, j'ai repris un mi-temps thérapeutique où je rebossais quelques heures en après-midi à la droguerie.
Ouais.
Aussi pour éviter de... Parce qu'après, on peut être dans un service où on n'ose plus retourner travailler parce qu'on stresse, on flippe. Ouais. Donc du coup, j'y suis retournée assez tôt, mais faire que quelques heures. Et le reste du temps...
C'est tomber de cheval et remonter sur...
Ouais, voilà, c'est ça. Avoir peur du vélo, avoir peur du cheval, parce que voilà, bah, là, c'est pareil. Avoir peur de... Puis moi, un peu ce côté confiné, j'avais peur des gens. Enfin, j'avais tellement... Vous voyez, moins de monde que j'étais dans une bulle où on voit aussi d'autres personnes, mais abîmées par la vie, par des choses... Mais retrouver le monde extérieur, ça me semblait... j'ai l'impression d'être toute fragile et de ne plus y arriver. Donc c'était bien que je reprenne vite. Ça, j'avais de la kiné, mais sinon, j'étais quand même les trois quarts du temps à la maison à rien faire. Enfin,
ouais.
Et puis, c'est pas comme finalement l'hôpital où on voit plein d'autres gens abîmés, mais avec qui on discute. Et du coup, je me suis remise rapidement à la couture avec ma prof avec qui j'avais commencé avant l'accident.
Mm-hmm.
Parce que même si tricot, j'arrivais pas trop, bijoux non plus, mais ça, en fait, la couture, ça demandait pas une grande force dans les mains. Ça demande d'arriver à appuyer avec son pied sur la machine.
Ouais.
Mais finalement, de coudre en soie, ça demande juste de pousser le tissu, de tenir le tissu devant ta machine, mais pas plus. Et en fait, j'arrivais assez rapidement à le faire, même si mes mains, elles étaient encore pas très musclées. Et voilà, j'arrivais à me redébrouiller toute seule, mais effectivement, elle était faible. Mais ça, j'y arrivais. Du coup, ça m'a un peu redonné espoir. Et je me suis mise à coudre à fond toute seule à la maison. Simplement, ça m'occupait. Au début, ça a été hyper thérapeutique, juste. Genre, je passais mon temps à coudre à la maison parce que j'avais rien d'autre à faire et que je m'éclatais. Et j'ai pas forcément pensé tout de suite à le faire en boulot. Mais au bout d'un moment, bah, voilà, je me suis dit, je me vois pas revenir à la droguerie tout le temps parce que j'ai mal dans une jambe constamment.
Et, oui, et puis t'étais beaucoup debout.
Et voilà, c'est beaucoup debout. À ce moment-là, il y avait un rythme aussi qui pouvait être hyper fatigant. Et je me disais, mince, qu'est-ce que faut aussi y penser petit à petit. Et donc, petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la couture ? C'est aussi les amis qui me disaient, pourquoi tu ferais pas des cours ou des ateliers ? Donc, au début, j'ai ramené des copines à la maison pour faire des ateliers à une personne par-ci, par-là, mais au moins pour voir si... C'est pas le tout de savoir coudre, mais il faut savoir expliquer aux gens.
Ouais, bien sûr.
Et a priori, je m'en sortais pas trop mal, parce que je disais, bon, on fait ça gratos, machin, mais à la fin, tu me dis franchement si c'était bien, nul, et si c'est nul, faut me le dire, que je me lance pas là-dedans, voilà. Et après, de fil en aiguille, haha.
Tu l'avais préparé, celle-ci?
Non, mais à chaque fois, ça le fait, parce que tout le monde, quand on me demande mon parcours, je me retrouve toujours à dire, bête de fil en aiguille. Oui, bah oui, mais c'est le mot. Après, c'est pareil, j'ai pu aller à une mercerie qui a fermé maintenant, la Lilloise Mercerie, près de République Beaux-Arts, à Lille,
mm-hmm.
Qui faisait des ateliers les samedis. Et là, pareil, j'ai fait, oh, ok, vas-y. Elle cherchait une personne pour faire les ateliers couture. Et c'est une ancienne collègue de la droguerie qui a dit, oh, bah, Stéphanie, ça pourrait l'intéresser. Et j'ai fait, allez, on se lance. Je vais voir si j'arrive à faire des ateliers en groupe, parce que c'est encore différent que de faire ça vite fait chez soi à une copine.
Ouais.
Donc, je me suis lancée. Elle m'a fait confiance. J'ai dit, bon, j'ai jamais fait, mais ça me dit bien de tenter. Ça s'est bien passé. Et voilà. Et après, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, ce serait... Moi, dans l'idéal, je m'étais dit, oh, pourquoi pas faire ça plus un petit mi-temps à la droguerie quand même. Ou voilà. Je savais pas trop, en fait. J'ai fait... En fait, petit à petit, tout ça, ça s'est fait sans vraiment que... Genre, j'ai pas planifié ça sur des années, entre guillemets, mais mon plan, là, de où j'en suis aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, les trucs, ils coulaient de source un peu. Bah, j'ai commencé à la Lilloise Mercerie, elle avait plus personne. Pim, au moment où je me lançais. Alors, ok, j'y vais. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer le CAP Couture en candidate libre ou voilà, j'avais vu qu'il y avait une formation sur l'île. J'ai demandé du coup un fonds GESIF, donc une formation par le travail pour faire ça. Je l'ai eu, le dossier. Bon, j'avoue que du coup, forcément, quand on raconte son parcours et qu'on dit qu'on a des soucis de santé, etc., je dis pas que ça aide, mais quand même, bah, dans un sens, ça aide. Mais en même temps, c'est le but de ce genre de formation, de pouvoir se trouver une solution quand on a eu des soucis. Donc hop, j'ai fait ça.
Juste le CAP, tu l'as passé combien de temps après ton accident ?
C'était quand ?
Ton accident, c'était en quelle année ?
Alors, attends, j'avais 27 ans. Maintenant, ça va faire 4 ans que j'ai eu mon accident, 4 ans et demi.
Et le CAP, c'est...
Un an et demi après, un truc comme ça. Un an et demi ou 2 ans après, à peu près.
Ça prend combien de temps à passer, en fait, à
préparer en fait, normalement, tous les ans, il y a des sessions pour les candidats libres. Donc, on peut y aller en s'inscrivant un peu les mains dans les poches. Moi, je m'étais renseignée auprès de mon travail. Non, peut-être quand même au bout de 2 ans, parce que entre le temps que je... Je crois que c'était après 2 ans après l'accident, à peu près. Mais là, moi, comme j'ai fait une formation, on avait une journée par mois de formation et du travail à la maison.
Des devoirs encore.
Ouais. Ah, trop bien. Des devoirs plus sympas que la babale, quand même. mais bon, c'est des devoirs. En fait, c'est coudre le plus possible pour être trop forte le jour J. Mm-hmm. Donc, c'est pas... enfin, vu que c'était une passion, c'était pas un devoir en soi, quoi. C'était pas désagréable. Du coup, c'était... Comme il y avait une sorte de formation que j'avais demandé en fonds de gestif, c'était de septembre pour passer en juin. Mais en vrai, tu peux te dire en mai, vas-y, je le passe en juin et je me débrouille toute seule. Bon, moi, j'étais quand même contente d'avoir eu quelqu'un pour nous donner des pistes, etc., et une petite formation.
Ouais, t'as plus de billes pour,
c'est ça.
Pour le réussir.
Et finalement, c'est en même temps que ça aussi, à peu près, on était un peu, entre guillemets, trop nombreux. Bah, comme je suis revenue travailler un peu à la droguerie, j'avais une remplaçante, normale. Enfin, une remplaçante, ils avaient recruté quelqu'un d'autre. Du coup, à un moment, on était un peu trop nombreuses. Donc, normalement, ils allaient faire partir la dernière arrivée. Mm-hmm. Et à peu près en même temps que j'ai eu mon fonds gestif, ils allaient proposer, enfin, dire gentiment à la dernière arrivée, ce serait bien de repartir. Sauf qu'elle n'avait pas vraiment forcément besoin de partir. Enfin, et moi, j'ai dit, bon, bah, je vais en profiter, entre guillemets. Je vais dire que moi, je veux partir et que je veux faire comment on appelle ça, une rupture conventionnelle, comme ça j'aurai le chômage, et je vais me former et on va voir. Donc c'était pas calculé du tout, quoi. Je venais d'avoir mon fonds gestif. Du coup, j'ai eu le temps aussi de bien me former et de pas travailler, donc c'était pratique pour bien préparer quand même le truc. Et j'ai fait une deuxième petite formation à ce moment-là, aussi en couture.
C'était quoi ?
En modélisme. Mais vraiment quelques heures, hein. Je suis pas une grande... C'est pour apprendre à faire des patrons soi-même.
D'accord, ok.
Mais j'ai pas vu, par rapport à la personne qui font vraiment ça une année à fond, j'ai survolé, mais j'ai déjà vu les bases et c'est pas mal quand même pour mieux comprendre des choses.
Ouais, bien sûr.
Mais j'ai fait ça aussi en plus en parallèle. Et ça, je crois que je l'ai demandé encore après parce que j'ai... Ah non, et voilà. Et après ça, vu que j'étais encore au chômage, que je commençais à faire des ateliers, que je me disais, allez, pourquoi pas se lancer là-dedans. Entre-temps, ça s'est fini avec le mec de mon époque, de cette époque, et où on pensait peut-être partir. Et je me dis, oh, je ferai des ateliers couture au Canada. Et je me dis, bon, bah, vu qu'on part pas, que c'est fini, allez, je m'installe et je tente de faire un vrai truc ici. Je vais créer mon entreprise, voilà. Parce que jusque-là, je pensais peut-être partir.
Mais moi, je pensais que tu l'avais créé avant ton entreprise, en fait.
Non, j'étais encore... après, il y a eu un... J'aurais aimé créer presque 6 mois, 9 mois avant ma création, qui était là en septembre 2019. Simplement, j'étais encadrée avec la BGE pour aider à la création d'entreprise. Et ma conseillère m'avait dit, elle n'a pas essayé de dire des bêtises, c'est juste que, par exemple, à un moment, c'était pas loin de si je créais là, j'allais perdre des bénéfices d'impôts. Si je créais un peu plus tard, on se disait que peut-être Macron allait changer des choses. Donc, à chaque fois, on s'est dit, bon, on va attendre encore quelques mois, on va attendre un peu. Donc, du coup, je suis restée un peu plus longtemps au chômage, tout en faisant quelques ateliers ponctuels à la Lilloise, enfin là où j'étais. Et voilà, mais je me suis pas j'ai pas créé assez vite, mais c'est juste parce que... Et puis après, pareil, j'ai refait une dernière formation, j'ai, entre guillemets, profité d'être encore...
Mais t'as pas arrêté les formations ?
Non. comme après, j'étais au chômage à Pôle emploi, que je partais plus, que j'allais pas aller au Canada, et que j'étais à Lille, et que voilà, je me suis dit, bon, je vais regarder si je peux encore me faire financer une formation quelque part. Et j'avais jamais demandé à Pôle emploi, donc j'ai dit ok. Et j'ai trouvé une formation d'un mois en retouche. Alors c'est moins glamour, mais c'est intéressant techniquement parlant. Et moi, je voulais être encore plus pointue pour mieux expliquer encore aux gens pour mes ateliers. Plus je faisais de formation, plus je me sentais crédible pour donner des cours. Parce que sinon, des fois, au début, on se dit un peu, est-ce que je suis légitime à faire ça ?
Alors qu'en vrai, tu l'étais légitime,
confiance en soi, finalement.
Ouais, c'est ça.
Et ça me remettait... Voilà. Et donc, les retouches, ça... Et puis finalement, même si c'est pas glamour, moi, ça m'amuse aussi, les retouches et le côté défi de refaire, de réparer un manteau, des choses comme ça. Encore plus maintenant avec le côté zéro déchet et pas de gaspillage, etc. Encore plus. Et je trouve ça... Je ferais que ça, je pense que j'en aurais peut-être marre, mais j'aime bien aussi. Donc ça, je l'ai fait avec Pôle emploi. Un mois comme ça et un mois en stage. Là, il y a moins d'un an. Il y a un an, à peu près. Et là, j'ai découvert le nouveau lieu où maintenant... Entre-temps, la mercerie où je venais faire des ateliers a fermé. Mmh. Et là, bah, pareil, en fait, c'est pour ça que tout est drôle, parce que la mercerie a fermé, je fais un stage, le hasard de la vie où je me dis je vais faire ça maintenant, de fil en aiguille toujours, vraiment. Et là, là où je fais mon stage, je m'entends trop bien avec les filles.
Ouais.
Et j'apprends pendant mon stage qu'il y en a une qui va... elles sont deux, et qu'il y en a une qui va partir dans un an.
Mais tu sais que c'est pas le hasard de la vie, ça, en vrai. C'est... t'as pris les bonnes décisions, t'as rencontré les bonnes personnes, c'est toi qui t'es donné toutes les clés.
Ah oui, peut-être, mais moi, j'ai vraiment l'impression de pas avoir... dans un sens, pas... tellement pas vraiment planifié ça que ça me tombait dessus. Après, c'est un... pour moi, c'est... tout ça, c'est des jolis hasards qui se sont accumulés, en fait.
Ouais.
Et du coup, finalement, même mon accident, je le considère pas comme un... Même si aujourd'hui, j'ai encore des séquelles et c'est moins drôle qu'avant, mais... Ben, finalement, je le vois plus comme un joli hasard, même mon accident, parce que c'est à partir de là que j'ai eu tout ce qu'il y a là. Mm-hmm. Alors oui, il y a sûrement de moi et de, comme tu dis, ou de mon... Je sais pas...
Ta force de caractère.
Moi, je sais pas pourquoi, mais moi quelque part.
Tu te débrouilles. Voilà.
Et puis voilà, par exemple, même là où je suis aujourd'hui avec les filles, où il y en a une qui va partir courant mai, et du coup, maintenant, je vais reprendre avec celle qui reste le local et on va s'installer vraiment... effectivement, c'est parce qu'on s'entend bien aussi et que quelque part il doit y avoir de mon caractère là-dedans ou de ma personne, mais c'est quand même tombé pile le moment où je suis en stage chez elles, qu'elles en parlent et que je l'entends parce que je tends l'oreille et que je dis moi ça, si jamais vous cherchez quelqu'un, je dirais pas non, et je pars de mon stage comme ça. Bon, effectivement, on s'entendait bien, mais je veux dire, peut-être 2 mois avant, elles en parlaient pas, ouais. Même en dehors de ok, il y a moi, je suis d'accord, mais 2 mois avant, peut-être qu'elles n'étaient pas encore dans le sujet. Et du coup, je me dis, c'est fou la vie quand même à des moments. Enfin, depuis mon accident, tous ces trucs-là, ils découlent un peu d'une manière un peu magique quand même, quoi. De mon point de vue. Même si oui, on va dire que c'est moi aussi, mais...
Non, mais c'est top de réussir à le voir comme ça, alors voilà. Qu'il y a des gens qui verraient ça comme le drame de leur vie. Et tout, ouais. Mais d'ailleurs, tu penses que... Enfin, c'est complètement hypothétique et tu peux pas tellement savoir, ouais. Mais tu penses que... T'en serais où si t'avais pas eu ton accident ? Tu l'imagines comment ta vie
Dans un sens, moins bien qu'aujourd'hui, quand même.
Ouais.
Parce que quand j'ai commencé à la droguerie, j'ai adoré et j'y étais depuis déjà peut-être 2 ans. Au final, j'ai peut-être fait 3 ans et demi, en comptant la période où j'étais pas trop là, finalement. Mais j'ai adoré, mais j'ai vu mes collègues que j'adore d'amour. J'en ai vu certaines qui sont là et qui me disaient des fois... qu'elles se voyaient pas partir de... que des fois elles auraient peut-être certaines envie de bouger, mais qu'elles avaient pas d'idée de qu'est-ce qu'elles pourraient faire après. Mmh. Et moi, je me suis dit, mince, même déjà cette période, je commençais un tout petit peu à angoisser, à me dire, bon, j'adore le boulot de vendeuse ici, mais c'est vrai que je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Même si vraiment j'adorais le contact client, que du coup j'ai à nouveau d'une certaine manière en atelier.
Avec les ateliers, ouais.
Voilà. Mais j'adorais trop le côté marrant d'être là avec, et le contact, et c'est ça qui fonctionnait bien là-bas. Et je me disais, mince, je suis grillée quand même en com. Bon, déjà, j'aimais pas trop le côté commercial, donc j'aurais pas fait la com d'entreprise, jamais. Mm-hmm. Mais même en culturel, bon, déjà, c'était la misère avant que je m'en aille. Et je me suis dit, mais maintenant, mon CV au niveau com, il est foutu. Puis il y a tellement de monde qui fait de la com en études que revenir après et dire, je refais de la com après, c'était foutu. Être à la droguerie, ok, c'est cool. Mais alors, qu'est-ce que... Je me disais, si jamais à un moment, je veux rechanger, vers où je vais ? Bon, aujourd'hui, je me le dis plus facilement que même demain, si mes ateliers, ça fonctionne pas assez et tout ça, je trouverai autre chose. J'irai en magasin de jardinage et je m'occuperai des plantes. Je vendrai des plantes. Tu vois, je m'en fiche. Je suis sûre que... Enfin, encore plus comme tout le monde, où on doit se débrouiller, qu'on trouve des solutions. Je me dis, même si j'ai pas un diplôme ou machin, je m'angoisse pas. Je trouverai. C'est aussi de la volonté. Mais à ce moment-là, j'étais quand même un peu en panique de... vers où je pense que j'aurais pas eu le réflexe de me dire « je vais faire une formation ». Je sais pas, j'étais peut-être moins combative dans un sens, parce qu'il y avait pas ce stress, finalement, dans un sens. Parce que là, comme j'avais mal aux jambes et tout, c'était un peu « mince, je peux pas vraiment revenir, faut que je trouve une solution pour après, ouais. Parce qu'après l'accident, faut que je trouve un truc à faire, enfin, à me débrouiller comme il faut ». Avant ça, j'étais plus à m'angoisser sans forcément me bouger les fesses autant.
Ah, je comprends.
Tu vois ?
Je suis pas mal du genre à m'angoisser sans bouger.
Limite te paniquer en mode mon Dieu, maintenant que j'ai mal comme ça, je pourrais plus être là tout le temps, faut être réaliste.
Ouais.
Alors qu'est-ce que je fais ? Et là, du coup, comme c'est un peu plus une situation d'alerte ou de. Critique, ça y est, comme c'est critique, il faut y réfléchir. Mm-hmm. C'est un peu rien à voir, mais c'est un peu comme si tu laves pas ton linge pendant longtemps, mais quand ça déborde, tu dis mince, bon, maintenant, faut que je le fasse. Tu vois, rien à voir, mais dans l'image. Voilà, c'est ça. Et avant, je me disais, c'était pas critique, c'était juste mm-hmm. dans ma tête, je me disais mince, quand j'en aurai un peu marre de la droguerie, c'est pas méchant, mais quand j'aurai un peu envie de voir ailleurs, qu'est-ce que je ferais bien ? mais un peu plus en mode plan-plan.
Ok.
Alors que là, voilà, bon, j'aurais sûrement trouvé, mais là, ça m'a plus... Et du coup, je fais plus ça. Et puis maintenant, j'adorais être à la droguerie, mais là, d'être à son compte, de faire ce qu'on veut, quand on veut, de décider de ce qu'on fait. Alors après, c'est dur aussi d'être sur tous les plans, mais puis ce côté passion de bosser sur la couture, c'est pas le métier qui fait que je suis milliardaire pour l'instant, ça c'est sûr, mais moi, je choisis de me lever le matin et d'être contente d'aller travailler, et pour l'instant, pas forcément de faire de l'investissement.
Ouais.
Et c'est le but, quoi. Enfin, surtout que, vu ce qui m'est arrivé, je suis pas défaitiste à me dire « Oh, on peut tous mourir demain, c'est pas ça. » Mais j'étais déjà optimiste avant ça.
Mm-hmm.
Ça a décuplé mon optimisme. De me dire « Ok, on n'a qu'une vie, justement, c'est bien. » Alors ça, pour le coup, j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Et puis, je sais quand même réutiliser mes mains. Donc maintenant, on se bouge les fesses et on est content de se lever le matin. Et c'est déjà très bien, quoi.
Mais déjà, en fait, ça te remet en face de ta victoire d'avoir récupéré toute la mobilité de tes mains.
Ouais, bah oui, parce que là, même quand des fois, je redis ça... Forcément, mes élèves savent pas toutes que j'ai eu tout ça. Il y en a qui savent, d'autres non. Et puis moi, des fois, c'est long à expliquer quand même.
Ouais, bien sûr.
Et bah, du coup, elles sont bluffées. Voilà, voilà, exactement. À toutes mes futures élèves, voilà. mais c'est vrai que pas mal de personnes sont bluffées de se dire « Mais tu ne savais plus utiliser tes mains, vu ce que je fais aujourd'hui. » Il y a encore des trucs aujourd'hui, quand je couds, je le sens qu'au bout d'un moment, j'ai mes mains qui fatiguent, comme quand on fait du sport et qu'on a mal aux abdos à la fin. Comme j'ai moins de muscles dans les mains quand même, je sens le côté j'ai des crampes dans les mains, quoi. Ça paraît, j'ai fait trop d'alter avec mes mains, et okay. Mais c'est rien, quoi, comparé à avant. Enfin, je sais tenir un gobelet, quoi.
Et tu crois que ça va encore s'améliorer? Parce que d'une certaine façon, tu fais de la rééducation tous les jours avec ton métier, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Déjà, moi, il y a le truc, c'est qu'au début, on m'avait dit, au bout de 6 mois, vous pouvez parler de séquelles sur votre corps.
Ok.
Pas tout le monde, hein. On m'a dit. Le neurologue que je voyais à ce moment-là. Bon, 6 mois, c'est rien, en fait, sur tout ce qu'il y a eu. Parce que moi, j'ai au moins fait 2 ans de rééduque où, au bout de 2 ans, je me suis dit... Au bout de 2 ans, je me suis dit... Je crois que là, ça y est, on peut parler de séquelles. Enfin, là, je vois que certains trucs... genre, j'ai un muscle sur une de mes mains où je vois bien qu'il est quasiment plus là.
Ouais.
Qu'il a fait ciao bye bye depuis cette période là bon, ça m'empêche vraiment pas à grand... alors je sais pas bien ouvrir un bocal, mais on est quand même nombreux à pas savoir le faire.
Ouais.
Donc c'est pas très grave, mais je me suis rendu compte au bout de 2 ans de répéter les exercices, de me dire bon, là faut se rendre à l'évidence, tel truc ne refonctionnera pas. Et ça, on me l'avait dit quand même, qu'il y a des trucs abîmés par le caillot dans la moelle épinière, ça refonctionnera pas, c'est sûr. Mais contrairement à ce qu'on a pu me dire en mode au bout de 6 mois, Non, c'est pas au bout de 6 mois, c'est quand même au bout de... Donc après, ça tombe, je pense pas pour mes mains, mais c'est plus, par exemple, j'ai des douleurs du coup neuropathiques dans une jambe tout le temps. Après, c'est dans la tête aussi, ça, donc je les sens plus ou moins fort. Ça, apparemment, il se peut qu'un jour, je me réveille et qu'elles n'existent plus.
Waouh.
Parce que la magie des nerfs, apparemment, bon, je vais peut-être dire des trucs que s'il y a des gens médecins, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Bah, après, moi, t'entends tellement de choses de plein de gens que, voilà, je dis peut-être des bêtises médicales, hein, m'en voulez pas. Mais... il y a qu'apparemment, il se peut très bien que soit j'ai ça jusqu'à la fin de mes jours, soit ça se répare un peu et j'ai moins mal, soit d'un seul coup, les nerfs se réparent d'eux-mêmes et ouais, j'ai plus rien. Mais les nerfs, apparemment, en tout cas de ce qu'on m'a dit jusque-là, c'est hyper flou comme, encore comme domaine de médecine, et que du coup, ils savent pas dire si oui, ça se réparera, oui, ça se réparera jamais, voilà. Plutôt parti pour que ça reste à vie avec moi, mais du coup, moi, je me dis pas que ça, je me dis pas tous les matins, c'est encore là.
Ouais.
Parce que
t'arrives à ne pas y penser. T'arrives à ce que ce soit pas ta première pensée au réveil, quoi.
Il faut, parce que sinon c'est simple. Au début, j'en dormais pas. C'est quand même des fois dur de dormir avec ça et tout ça, surtout pour dormir. Puis pareil, je peux quand même pas faire des grands trucs de sportif non plus. Ça tombe bien, je l'étais pas sportif. Mais comment dire, en fait, une fois, je dormais pas, mais au tout début, quand j'avais vraiment mal, et du coup, j'étais sur mon téléphone, forcément, comme tout le monde, ce qui aide vraiment à dormir. Et j'ai tapé douleur neuropathique au tout début, hein, un peu comme je faisais pour Doctissimo, mais je suis tombée sur une thèse sûrement de médecin ou d'étudiant, j'en sais rien, où il disait, et ça m'a sauvé ce texte. Il y a pas longtemps, j'ai essayé de le retrouver, mais malheureusement, je le retrouve pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font quand même des thèses ou des dossiers là-dessus. C'était vraiment une sorte de thèse en ligne, et qui disait que les douleurs neuropathiques, quand elles sont là tout le temps, soit on y pense, donc on sent encore plus qu'on a mal parce qu'on y pense, donc on focalise là-dessus et on y pense tout le temps, comme une autre douleur, hein, finalement, c'est comme n'importe quelle autre douleur.
Ouais.
Mais bon, là, vraiment, dans le sens où celles-ci, elles sont souvent à vie, on y pense, on a mal, on a mal, on a mal, et du coup, on dort pas parce qu'on a mal, et en plus on se le dit, donc on dort encore moins, donc on est fatigué, donc on n'arrive pas à aller travailler parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, et donc cercle vicieux, on finit par rester chez soi et se tuer pas réellement, mais on a plus de vie, quoi. Ou alors on essaye de se dire qu'on l'oublie, et du coup on fait un cercle vertueux de plus on l'oublie, moins on le sent, moins on a mal, et on revit. Et en fait, c'est écrit dans leur thèse, c'est vachement dans la tête, et plus vous arrivez à faire ça, plus vous allez vous en sortir. Et quand j'ai lu ça en pleine nuit, mais vraiment dans les débuts où j'en pleurais quand même, parce que ouais. J'en avais marre de pas dormir, je me suis dit, ok. Et j'avais déjà fait un peu en réduc de la méditation, machin. Bon, ce qui marche bien, moi, c'est en réduc, je m'étais endormie, tout le monde s'était moqué parce que j'avais ronflé en pleine après-midi là-dedans, mais je dormais pas, donc pour une fois, j'avais réussi à dormir, donc c'était bien. C'était genre, vous êtes dans un jardin, imaginez, alors moi je pars... ça y est, je suis dans le jardin. Imaginez les fleurs de votre jardin. Alors moi, ce genre de truc, c'est bien parce que j'imagine et hop, j'arrive à me rendormir. Donc cette fois-là, j'ai fait ça, j'ai dormi. Et depuis ça, ça m'a marqué de me dire, non, si t'y penses trop, t'es foutu.
Donc tu penses aux fleurs et tu dors.
Exactement.
Ok.
Mais voilà, c'est un truc qu'il faut oublier pour... c'est pas survivre, pour vivre, en fait, juste avec. C'est un peu... Et je pense que j'ai toujours aussi mal qu'au tout début. Sauf que comme ça fait 4 ans, au bout d'un moment, même si d'un seul coup tu te retrouverais avec un clou planté dans le plein milieu de ta main, et qu'au début tu cries « Ah !» parce que ça fait très mal, tu dis 10 sur 10 aux urgences, mais je sais pas pourquoi on te dit « Tu peux pas l'enlever ». Au début tu cries, tu pleures, tu fais « Ah !» mais au bout d'un moment tu arrêtes de faire « Ah !»
Juste, je précise aux auditeurs, si vous avez un clou dans la main, allez quand même aux urgences parce que sinon ça s'infecte et on vous ampute, quoi.
Oui, bon, d'accord. C'était une image.
Non, je vois pas ce que tu veux dire. En fait, mais... tu cohabites avec la douleur. Tu
et voilà, si tu sais que ça reste, au début, tu hurles de douleur et au bout d'un moment, ça se calme.
Ouais.
Enfin, tu te calmes parce que tu vas pas non plus crier tout le temps. Bah, moi, je vais pas crier tout le temps. Et puis, je suis pas du genre à me plaindre, comme je l'ai dit au début, même quand je suis aux urgences. Je le suis pas plus maintenant qu'avant. D'ailleurs, du coup, ça se voit pas du tout que j'ai des soucis, mais en même temps, je vais pas faire j'ai mal quand voilà. Mm-hmm. Bon, là, par exemple, depuis que je suis arrivée, et même tout à l'heure, j'ai hyper mal à la jambe, mais. Et j'ai des pics, je suis en plein pic, mais j'essaie de pas, tu sais, je vais pas, là je te le précise parce qu'on parle de tout ça, mais ouais. Justement je vais pas me mettre à le redire, à me lamenter là-dessus, parce que c'est sûr que là, du coup limite ça s'enflamme encore plus, alors que non, ça changera rien en fait, enfin ça va pas me guérir, hein, donc voilà.
On va manger du houmous après et tu vas complètement oublier.
C'est ça, exactement.
Et donc aujourd'hui t'as créé, c'est ta marque Stéphanie Marie Compense ou pas ?
Alors, on y est presque. Alors, Stéphanie Marie Compense, c'est sur Instagram. Du coup, tout le monde dit Stéphanie Marie Compense.
Ouais.
Et c'est vrai que ça porte à confusion.
Ah non, mais moi, limite, dans ma tête, c'est ton nom de famille. Hein.
Pourtant, mon nom de famille, c'est Pérignon et je serais presque à vendre du champagne, sinon.
Oh,
presque. Il me manque le don.
Ah. Tu veux pas être couturière et vendeuse de champagne ?
Ça serait pas mal. Hein.
Tu nous aurais des prix et tout, ça serait
bien. Une petite coupe en faisant sa couture, c'est pas mal. Bon, ça risque de faire des coutures un peu tordues. Mais...
ça serait compliqué.
Ouais, sur Instagram, j'ai mis Stéphanie ma récompense parce que j'avais juste pas envie d'avoir un nom de marque et plus de prénom.
Ouais.
Et aussi parce que, un peu comme toi, dans un sens, je fais une marque, mais en même temps, je suis une personne dans les ateliers et les gens viennent autant pour moi que... Enfin, pour moi, c'est pas pour se vanter, mais... pour la personne que pour le contenu, enfin.
Bien sûr.
Et sauf quand je vends des créations, effectivement, là, c'est mes créations, quand je vends des créations couture, mon étiquette, c'est ma récompense. Mais ouais, maintenant, j'ai mon nom de marque, mon nom d'atelier, enfin, et puis après, mon nom en tant que créatrice d'entreprise pour mes ateliers, officiellement, de chez Officiel, depuis 7 ans.
Et avec Stéphanie, enfin, avec ma récompense...
Ouais, on peut dire Stéphanie.
Je suis habituée. Avec ma récompense, du coup, c'est ton activité, c'est les ateliers de couture.
Ouais.
Les commandes.
C'est ça, les créations. Et un peu de retouche, parce que là où je suis maintenant, où j'ai fait mon stage, celle qui va partir s'occupait de faire des... Enfin, pas que des retouches, elle faisait aussi des créations.
Mm-hmm.
Mais entre autres, elle faisait beaucoup de retouches. Et comme elle s'en va, on va être deux à récupérer un peu aussi ça, en plus des créations et des ateliers. Bon, ça, faut pas cacher qu'effectivement, au moins les retouches, ça peut des fois aider à arrondir les fins de mois. Et puis moi, franchement, j'aime quand même bien ça aussi de temps en temps. En fait, faire tout, si je faisais que des ateliers, je pense que je serais un peu peut-être dégoûtée des ateliers, parce que je ferais plus de couture.
Mm-hmm.
J'aime quand même bien coudre aussi au départ. Donc quand j'en fais trop, limite, je suis triste de... Enfin, pas triste, mais je suis un peu... Ça me démangerait de pousser mon élève pour coudre à sa place. Ah, l'ami de la vilaine. Et voilà. Et dernièrement, il y a eu des moments où j'avais beaucoup d'ateliers. À un moment, j'ai eu un creux et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Parce que financièrement, c'est encore en cours de voir comment je m'en sors, est-ce que je dois faire un petit boulot à côté quand même ou pas, c'est encore en réflexion tout ça. Et là, je me suis dit, mais non, mais en fait, je peux quand même aussi vendre mes créas. Parce que des fois, je me faisais pas confiance sur mes choix de tissu, de ce que je fais. Mais après coup, je me suis dit, mais si, à chaque fois que tu fais, sans me vanter, mais quand même juste constat, à chaque fois que je mets des choses sur Instagram que je couds, a priori, il y a pas mal de monde qui aime bien et rarement on me dit c'est moche. Je me suis dit, bon, ben, en fait, des fois, je peux faire plusieurs exemplaires de tel ou tel modèle que je me suis fait parce que je peux me faire confiance et si ça me plaît aux gens, je peux réussir à en vendre quelques-uns. Et donc, maintenant, je fais ça aussi en plus.
Et ça te fait un complément de
salaire. Voilà, en plus des ateliers. Et en vrai, en dehors du salaire, ça me fait du bien de recoudre un peu et de faire un peu de tout, quoi. Voilà. Après, moi, j'ai aussi, en salaire, j'ai un statut de travailleur handicapé et j'ai une pension d'invalidité par la Sécu qui, normalement, si je travaillais en tant que salarié, je pourrais faire un 70%.
Ok.
Voilà, donc, je veux dire, du coup, j'ai aussi cette petite aide pour l'instant, pour encore quelques années, jusqu'à ce que je repasse devant un médecin du travail qui vérifie si... Si j'ai encore mal à ma jambe, je préférerais lui dire que non, hein, mais on verra. Mais voilà. Mais ouais, donc je fais ces trois choses-là pour l'instant et on verra. Enfin, c'est encore, voilà, vu que c'est depuis septembre vraiment.
Ouais. Et t'as pas de préférence, un métier qui te.
Sur les trois choses
sur
que je
les
fais,
trois,
là
ouais.
Bah, les trois sont liées, donc du coup. Bon, c'est sûr que je préfère avoir plus de commandes et d'ateliers que de faire trop de retouches. Si okay. On devait faire trop. Voilà. Hein.
Ouais.
Après, vraiment, comme là, on n'en fait pas... Vu qu'on n'est pas un lieu où on fait que ça, on n'a pas que ça qui nous arrive en magasin, on va dire. Donc, du coup, c'est pas désagréable. Mais c'est vrai que si je devais faire des proportions, je ferais un peu moins de retouches. Enfin, okay. J'en fais pas trop en ce moment, mais je préférais faire un peu moins de retouches et faire un peu des deux à fond. Mais autant de la couture que de l'atelier. Parce que si je faisais à l'inverse trop de couture... peut-être j'en aurais marre de des fois faire un exemplaire. Je vais quand même faire des fois souvent des collections un peu capsules. En ce moment je me tape un gros délire sur les bananes que Sophie voit comme le fruit.
C'est pas le fruit, oui, c'est l'accessoire.
L'accessoire, voilà. Du coup j'en fais plein, des léopards, des en velours, machin, je m'éclate. Et ça pour l'instant je pense en faire un certain nombre jusqu'à ce que j'en ai un peu marre et je changerai. Je fais des suites aussi, par exemple en ce moment des sweatshirts. Panthère aussi, un groupement en même temps, tout le monde met de la panthère. Mais si à un moment j'en ai marre, je me dis, oh bah, je me lancerai sur autre chose. Mais je pense que si je me retrouvais à faire 1000 bananes parce que ça marche trop bien et que je fais plus que ça, j'en aurais marre aussi.
Bien sûr.
Du coup, je suis contente qu'à des moments de pause, oh bah, moins de bananes et un petit peu d'atelier, pof. Mais du coup, ça fait un bon. moins de bananes.
Mais vraiment, tout à l'heure, tu m'as
régime
dit.
Régime banane.
J'ai apporté des bananes à des copines, je devais apporter des bananes à des copines et je me suis dit, mais pourquoi elles vont pas.
Pourquoi elle fait des livraisons de bananes? Elle les délivre aux bananes? Je comprends pas.
Mais j'ai vu que t'avais fait une robe de mariée aussi.
Ouais.
Ça, c'est dingue, quand même.
Ouais, ça, c'était défi 2019. C'est vrai que... Il y a pas si longtemps, j'aurais... Déjà, c'est parce que c'est ma coiffeuse que je connais bien maintenant, parce que c'est une coiffeuse à domicile, donc je la vois souvent, qui m'a demandé. Mais quand elle m'en avait parlé, c'était au moins un an avant que ça se fasse. Parce que le temps qu'elle aussi programme son mariage, etc.
Ouais,
la première fois qu'elle m'en a parlé, j'osais pas encore lui dire, mais je me disais, oh, non, mais je peux pas faire ça, je vais détruire son mariage. Enfin, puis ça me met une
c'est
pression.
C'est un homme de l'imposteur.
Ouais, ouais. Oh, puis c'est une pression, une robe de mariée quand même. Et bon, heureusement, je dis pas que je l'ai mal faite, mais elle, en tout cas, elle était pas trop exigeante, elle me faisait vachement confiance.
Non, mais elle était magnifique, cette robe, ouais. Tu déconnes.
Oui, mais je veux dire, au moins, elle m'a pas mis une pression.
Faut que tu la mettes d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ah, ouais. Non, tu peux pas.
Si, c'est parce que...
Parce que, là, du coup, j'en parle, mais les gens peuvent pas la voir. Alors que...
Faudra que je redemande, c'est parce que j'attendais que ma coiffeuse me donne des photos et j'en ai pas encore. Mais je vais relancer, Sophie.
Bien sûr, s'il te plaît.
Mais... Non, ce qu'il y a de bien quand même, c'est que pour avoir même fait des fois des boucles d'oreilles pour une mariée à la droguerie, les filles, j'ai pu voir des futures mariées beaucoup plus stressées que ma coiffeuse. mon amie Anne, elle s'appelle Anne, parce que c'est pas juste ma coiffeuse, c'est une amie maintenant. Donc des gens beaucoup plus stressés qu'elle, et rien que de faire la paire de boucles pour leur mariage, moi j'étais mal, parce que j'étais là, mon Dieu, la pression. Comme si t'étais au mariage et que c'était ta faute si ça foirait à cause de la paire de boucles d'oreilles.
S'ils ont divorcé, c'est ta faute. Désolée de te le dire.
Et là, du coup, c'est vrai que heureusement, elle était quand même pas dans un gros état de stress, et du coup, ça m'a quand même mis en confiance pour oser relever le défi. D'accord. Je pense que j'aurais quelqu'un de beaucoup plus exigeant et stressant. Exigeant, c'est pas que c'était pas belle, comme tu dis, effectivement, elle est pas trop mal quand même, mais c'était plus le côté que si elle s'était mise elle-même trop la pression, j'aurais eu peur. Mais non, du coup, ça c'était défi 2019 et ouais, je suis plutôt fière. Et j'ai pu m'aider parce que ma collègue là où je bosse maintenant, dans le Vieux-Lille, elle fait du vêtement sur mesure et elle a vraiment fait une formation de modélisme, comme je disais tout à l'heure, à fond. un an. Et du coup, bah, par exemple, quand j'avais pas confiance, j'allais lui poser des questions. Et ça, c'est cool parce qu'au moins, elle m'a aidée. J'avais les bonnes logiques, mais il fallait que quelqu'un me dise « Si, si, c'est bon, fonce, t'es sur le droit chemin. »
Ok.
Mais ouais, du coup, c'était la fierté. Puis le dernier essai qu'on a fait, enfin, quasiment fini. Non, fini. Au début, voilà, Anne, elle venait essayer, tranquille, sans trop se mettre la pression elle-même, en chaussettes, machin, on s'en fiche. Et quand elle l'a essayé vraiment vers la version finale, où normalement, il me restait une semaine pour faire des modifs si jamais il en fallait encore.
Ouais.
Et ben là, elle a eu les larmes aux yeux et moi aussi. Et
j'ai fait, tu m'étonnes.
Comme dans les séries où elles essayent leurs robes et tout, là. Je m'en moquais, mais là, elle était émue et j'ai vu qu'elle était émue. Et du coup, moi, j'étais émue aussi parce qu'on voyait toutes, et il y avait ma coloc qui était là, on voyait toutes que là, elle lui allait vraiment bien.
Ouais.
Et là, ça faisait waouh. Enfin, ouais, trop d'émotions.
Tu m'étonnes.
Et j'étais contente que même elle, enfin, c'était défi relevé, mais. Un point en moins là après quoi.
Est-ce que c'est ça ta plus grosse fierté
de ta couture
carrière de ta couture ouais de couture ou du reste
de
en fait
carrière je sais pas parce que je sais pas si je pourrais mettre un élément précis
ouais.
plus qu'un autre parce que des fois ça va juste être de donner des cours à certaines personnes et de voir et c'est pas forcément juste la couture c'est que comme on passe des bons moments il y a aussi un côté comment que des fois enfin c'est pas
une complicité un truc
ouais et que du coup il y a des personnes qui viennent aussi un peu de façon thérapeutique pas parce qu'elles alors soit parce qu'elles ont quand même eu aussi des ou elles ont des soucis de santé
ouais.
donc elles aussi elles se servent de ça comme on pourrait prendre n'importe quel autre loisir comme thérapie ou des fois elles ont pas forcément un souci de santé enfin je dis elles j'ai quand même eu des mecs deux mais c'est j'ai
sur plus... combien
ou sur beaucoup donc pas okay. un très léger pourcentage mais où il y a des petites nanas qui viennent et qui, des fois, juste, elles ont, bah voilà, elles ont pas le moral ou je sais pas quoi, et elles ressortent avec le sourire. Une fois, j'ai un pote qui m'a dit que... Comment il m'a dit ça que mes ateliers, c'était d'essayer de transmettre du bonheur. Et moi-même, je me rendais pas compte de l'idée. Enfin, ouais. Mais du coup, je croyais que c'était vraiment le mot « essayer de transmettre du bonheur ». En dehors, parce que je dis pas que je pourrais faire des ateliers cuisine, bricolage ou quoi, mais presque, même si j'adore la couture et du coup, je lis l'utile à l'agréable, mm-hmm. mais c'est ce que j'aimais déjà à la droguerie. C'était de faire repartir les clients avec le sourire.
Ouais.
Bon, et non, effectivement, il fallait aussi vendre. Mais le fait finalement que je sois positive ou quoi, bah, ça faisait aussi qu'on créait des ventes, mais parce qu'on était sans faire trop du forcing, mais du coup, ça marchait aussi ça, en étant soi-même et en étant sympa. Et du coup, finalement, moi, ce que j'aime bien, ce serait de faire des ateliers pour essayer de transmettre du bonheur tout court. Et je pense que c'est plus là ma fierté quand j'arrive à faire cet effet-là aux gens. C'est un peu prétentieux de dire ça dans un sens, mais je remarque
que c'est hyper altruiste, au contraire.
C'est ce que ça fait, donc tant mieux, quoi. Ce serait plus ça ma fierté, au final, je crois.
Et idéalement, tu te verrais où dans, mettons, 4-5 ans ou
j'ai
plus
dit, dis pas plus parce que je me stressais. bah 4-5 ans, ça va, c'est pas trop loin.
Genre,
encore.
Le truc idéal, genre avoir ta collection capsule avec, je sais pas, H&M. Non, fast fashion, on aime pas trop.
Monoprix, à la limite. Mais bon, la okay. Monoprix, ce serait comme des créatrices qui ont déjà un nom un peu plus grand. Donc voilà.
Bah attends, on sait pas. Ouais, on, ouais, sait pas.
On sait pas.
On sait pas.
C'est vrai. Demain, je vais être en stage, je sais pas où, et vlan.
Bim.
Ouais, ce serait d'avoir des petites choses comme ça. Ou ce serait quand même, bah, déjà de fonctionner assez pour en vivre sans trop être en stress d'un mois sur l'autre. Là, ouais. C'est normal, c'est le tout début. Et puis, je suis en recherche encore pour l'instant. C'est encore... déjà d'être tranquille, de vivre sereinement avec ce que je vis là. Mm-hmm. En moins quelques années. Et évidemment, même si je continue, entre guillemets, mon train-train d'avoir les mêmes choses, le même trio de boulot, bah, si je peux, pendant 4-5 ans, être dans ce truc-là, mais vivre assez... normalement de ça, les projets couture ils se changent tellement tout le temps, mm-hmm. suivant les demandes des gens, etc., ou de nos envies à nous, nos défis qu'on se met nous-mêmes. Genre moi je vais me faire une parka bientôt doublée et tout, et j'ai jamais fait et c'est cool. Mais je veux dire, même si c'est le même boulot encore dans 4-5 ans, si je peux en vivre assez aisément, les projets changent tellement souvent, les gens qui viennent aussi ça change tout le temps,
ouais.
que voilà, ce serait ça, ce serait de pouvoir peut-être faire à plus d'endroits sur l'île, s'implanter plus à plus de lieux, etc., voilà, de pouvoir faire à plus d'événements, etc., ça peut être sympa.
Ouais.
Et ce serait trop bien aussi, c'est qu'un jour, peut-être, comme là, des fois, on a des stagiaires, d'avoir limite l'occasion d'être deux sur le... Enfin, là, on est deux, mais on est deux chacune sur notre entreprise à nous. Mm-hmm. De pouvoir presque avoir une personne en plus, mais pas en stage, quoi. Une personne qui pourrait venir travailler avec nous en tu sais, presque avoir une équipe, en fait, aussi. Moi, ça me ferait plaisir. Mais là, ça voudrait dire vraiment gagner assez bien pour carrément quelqu'un d'autre puisse gagner sa vie aussi.
Bien sûr.
Mais ce serait cool aussi, je trouve, ce genre de choses. Voilà. Après, dans un de mes rêves, mais bon, je me sens pas encore aussi légitime pour ça, mais de réussir à faire des formations au point de faire former des gens encore à côté, quoi. Mais ce serait déjà pas mal comme ça, je pense.
Ouais,
juste d'en vivre, tu vois. Je serais... Enfin, d'en vivre assez tranquille, sans se prendre la tête.
Ouais, je comprends.
Moi, je serais contente, je pense, là. Ça suffit.
Tu m'étonnes.
Ou si, un autre truc, un dernier truc, ce serait... Là, on a un lieu sympa.
Acheter un poney, pardon. Qui n'a rien à voir.
Acheter une banane géante gonflable à mettre au-dessus du lieu pour nous repérer dans du ciel.
T'imagines ? Ce serait trop bien, ce serait un monument vivant.
Une banane fruit, hein, ce coup-ci. Hein,
ah, ok, bah, je sais pas, précise, merde.
Non, ce serait justement peut-être... là, on sait très bien où on est, mais on a un petit 20 mètres carrés. Si, ce serait dans 4-5 ans d'avoir... d'avoir assez pour trouver un autre local plus grand, quoi. De pouvoir se permettre d'avoir un lieu plus grand. Ça, ce serait cool aussi. Là, on est bien, mais si on pouvait encore plus avoir de la place et tout...
Pouvoir faire la roue dans le local.
Pouvoir faire la roue dans le local, exactement. Ouais. Ce serait pas mal non plus.
Ou faire du kart.
Oui, ouais, alors là, c'est encore... ça, c'est dans 10 ans. Non, voilà. Ce serait ça qui serait pas mal non plus.
Bah, merci beaucoup, Steph.
De rien.
Et du coup, on peut te suivre où ?
Sur Instagram, je suis plus à jour. Et donc c'est Stéphanie, je sais pas comment on l'appelle, le tiré du bas. Stéphanie, tiré du bas, ma, tiré du bas, récompense.
De toute manière, je mets en barre, enfin,
oui, en description, tout ça. Tout ouf, ça. Vous avez de la chance.
Moi, parfait. Bah, du coup, c'est l'heure de l'apéro.
Oui.
Merci à Stéphanie d'avoir bien voulu nous parler de son parcours et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Déclic. Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir le travail et l'univers de Steph, sachez qu'on a mis son compte Instagram dans la description. On se retrouve mardi, dans 2 semaines, pour un nouveau numéro du Déclic. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents formats 18h17 production sur Acast, Spotify ou encore Apple Podcast et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles. À bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.